Les par actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 5 octobre 2017. Hélène Denis au micro et en manchette, la thérapie génique a redonné la vue à des souris. Mira met un terme à sa relation d'emploi avec Bruno Beauregard. La société d'Alzheimer ouvre un point de service à Bedford. Aussi, le Canada prend des mesures concrètes pour améliorer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises privées. Fière de mesurer un mètre, cette blogueuse défend la mode pour tous. En entrevue, je recevrai Daniel H. Lantin, directeur général de la Fondation Réa, qui viendra nous parler du film Stronger, et aussi de Marc Terrien, médecin originaire de Sherbrooke, qui lui viendra nous parler des courses partagées. Des souris malvoyantes ont regagné une perception visuelle grâce à une reprogrammation génétique de leurs cellules rétiniennes. La thérapie génique pourrait un jour redonner la vue aux malvoyants. La thérapie génique a redonné la vue à des souris, c'est sur le site pourquoidocteur.fr. Cette technique prometteuse a permis de réparer les cellules rétiniennes de souris atteintes de cécité, rapporte une étude présentée dans Science Translational Medicine. L'équipe de recherche de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, s'est particulièrement intéressée à la mélanopsine, un pigment localisé dans la rétine, pour contrer la dégénérescence de la rétine, voire même inverser ce phénomène. Leurs expérimentations ont été réalisées chez des souris atteintes de rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative de l'œil qui se caractérise par une perte progressive de la vision. Pour parvenir à cette régénération, les scientifiques ont injecté la mélanopsine dans la rétine des souris. Elles ont ensuite été surveillées pendant plus d'un an. Tout au long de cette période, elles ont présenté une nette amélioration de leur vision. Elles étaient capables de reconnaître des objets dans leur environnement. L'équipe britannique qui travaille en parallèle sur l'implant rétinien électronique pense que l'approche génétique, c'est bien cela, apportera davantage de bénéfices aux malades et est plus simple à administrer. Prochaine étape, démarrer les essais cliniques chez des patients. Mira met un terme à sa relation d'emploi avec Bruno Beauregard sur le site tvanouvelles.ca. La Fondation Mira met un terme à la relation d'emploi de Bruno Beauregard, a-t-elle annoncé dans un communiqué. L'organisme spécialisé dans les chiens d'assistance tient à préciser qu'elle n'a jamais eu quelque lien d'affaires avec l'ancienne entreprise de M. Beauregard, pas plus qu'avec ce dernier. Fin septembre, M. Beauregard faisait l'objet d'un reportage à l'émission JE. Par le biais de son entreprise, maintenant en faillite, 1000 soutiens canins. Alors, son entreprise s'appelle 1000 soutiens canins. L'homme a floué plusieurs enfants autistes et leurs familles en vendant des chiens d'assistance dont certains étaient malades, agressifs ou inadaptés. On leur promettait pourtant un dressage personnalisé répondant aux besoins particuliers des enfants. L'arnaqueur avait été embauché depuis par la Fondation Mira. La Fondation prend acte du passé trouble de son employé Bruno Beauregard. En entrevue sur les ondes de LCN, plus tôt en matinée, le directeur de l'organisme spécialisé en formation de chiens guides, Nicolas Saint-Pierre, avait préféré ne pas réagir à chaud. M. Saint-Pierre insistait pour dire que la Fondation Mira n'a aucun rapport avec toutes les opérations que Bruno a faites avant. Ce qui est important, c'est de rappeler à toutes les familles à qui on donne des chiens à travers le Québec et le Canada qu'on a des standards extrêmement élevés, a rappelé le directeur, précisant que Mira fait l'objet d'un encadrement important, notamment par la Fédération internationale des chiens guides, par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, par Anima Québec et différentes régies d'élevage de la province. Le film Stronger, film réalisé par David Gordon Green, est à l'affiche présentement dans plusieurs salles au Québec. Et on en parle avec Daniel H. Lantaigne parce que le film traite d'une réalité qu'il connaît. Et bonjour, M. Lantaigne, d'abord.
Bonjour.
Alors, de quoi il est question dans le film Stronger?
Donc, le film Stronger, on se remet dans le contexte, la 117e édition du Marathon de Boston. Donc, on remonte au 15 avril 2013. On sait tous là, finalement le sort tragique que ce marathon aura eu. 3 personnes décédées, 264 blessés, donc vraiment un attentat terroriste. Et le film nous amène dans une des parties de cet attentat-là, mais plutôt dans le après, je dirais même avec l'histoire de Jeff Bowman. Mm-hmm. Donc Jeff Bowman, qui est là à la ligne d'arrivée à attendre son ex-petite amie pour la reconquérir et aussi bon, en termes de support. Et à cette ligne d'arrivée-là, bon, se déclenche une des explosions et à ce moment-là, il perdra 2 jambes au-dessus du genou.
Il devra se faire amputer les 2 jambes.
Tout à fait. Donc, c'est l'amputation pour lui. Et c'est là un peu que le film commence. Donc, vraiment plus dans le après, dans cette réadaptation-là. Et cette résilience-là qui prendra un certain temps là à Jeff Bowman. Et c'est là que toute la beauté du film arrive.
Oui, et il faut dire que c'est Jake Gyllenhaal qui incarne à merveille Jeff Bowman. J'ai vu ce film vendredi dernier. Est-ce que, justement, vous trouvez que le film présente la réadaptation de façon réaliste? Je pense que oui, d'après le ton et ce que vous avez dit un petit peu à propos de la réadaptation.
Tout à fait, vraiment, on arrive avec cette belle sensibilité-là de la réalité de la réadaptation, avec cette notion-là, là. Et puis pour remettre dans le contexte, je suis moi-même amputé de la jambe droite et je suis directeur général d'une fondation en réadaptation. Et toute cette notion-là de faux courage pour nous, et Jeff le mentionne autant dans le livre que dans le film.
Vous dites de faux courage?
De faux courage, c'est-à-dire lorsqu'on se fait dire félicitations, t'es très courageux.
Oui, j'ai pas le choix finalement.
J'ai pas le choix, c'est pas une notion de courage, on est plus dans la résilience et se faire traiter en héros comme c'était fait de traiter Jeff Bowman. Il dit, ben écoutez, est-ce que je suis un héros parce qu'il me manque 2 jambes? Parce que c'est ça de l'héroïsme. Donc, cette notion-là de faux héros, le courage et toutes ces sensibilités-là, de dire non, c'est pas, on n'est pas nécessairement dans le courage, on est plus dans la résilience et de faire, ben écoutez, maintenant c'est ça mon sort et je dois apprendre à vivre avec et continuer de foncer.
C'est ça, il y a tout un processus de deuil avant d'accepter son nouveau corps.
Oui. Tout à fait, puis vraiment le film le démontre très bien avec une belle sensibilité et un très très grand réalisme là, par rapport à ces différentes étapes-là de deuil dans la vie personnelle, de ce qu'on peut accomplir, de ce qu'on a hâte de refaire après une amputation, mais qu'on fait « Ah non, peut-être que je ne pourrais pas faire telle ou telle chose. » Donc vraiment, le film le prend très, très bien. Et Jake Gyllenhaal le fait à merveille. Là, c'est quand même bien d'avoir trouvé une tête d'affiche de ce renom-là, finalement, pour jouer ce rôle-là.
Oui, et le film montre aussi, M. Lantaigne, à quel point l'entourage, la famille, les amis, le conjoint, l'amoureuse, dans ce cas-ci, jouent un rôle déterminant pour la personne qui devient handicapée, pour la vie de la personne qui devient handicapée, dans sa motivation à continuer de vivre ou de ne pas vivre.
Tout à fait, parce que l'amputation, oui, elle appartient à la personne qui est amputée, mais c'est l'ensemble de l'entourage, finalement, qui vit avec cette nouvelle réalité-là et qui a un rôle très important à prendre, des fois, un rôle que la personne handicapée souhaite plus effacer à certains moments, mais ça prend cette détermination-là et finalement cette conviction-là de l'ensemble de l'entourage qu'on peut y arriver. Et je pense que ça a vraiment, dans ce cas-là, donné un bon coup de main à la réadaptation, mais c'est le cas dans à peu près toutes les histoires de réadaptation. Mmh. Un entourage autour qui pousse et qui aide vraiment, c'est un des facteurs de succès non négligeable.
Et vous qui avez perdu une partie de votre jambe droite, c'est ça?
Tout à fait.
Est-ce que vous vous êtes identifié au personnage du film?
Oui, oui. Mon destin est différent. C'est une bactérie mangeuse de chair là, qui a créé cette amputation-là, mais vraiment, je me revoyais au centre de réadaptation au début avec peut-être cette non-volonté-là d'aller faire mes exercices, ma physiothérapie, et finalement de réaliser que mon avenir, ben, finalement, se mettait sur la glace ou était un peu au ralenti si je n'y mettais pas un peu du mien et que je ne faisais pas mes exercices et l'ensemble de tout ce qui est demandé. Et vraiment, je le voyais à travers ça, non seulement dans le processus médical, mais beaucoup dans le processus relationnel où il y a un moment où vraiment on en veut à tout ce qui bouge et tout ce qui respire.
Ah oui, hein? On est révolté.
Tout à fait, et on tire sur tout ce qui bouge finalement, mais au final, on réalise là, que tout cet amour-là, bon, on en a besoin, puis il faut le prendre là, pour passer à travers cette étape-là et rebâtir cette nouvelle vie-là dans des nouvelles conditions. Là.
Alors, Stronger raconte une histoire de résilience très inspirante. Vous le recommandez pour tout le monde, pour tous les publics?
Oui, vraiment, là, que il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir une sensibilité par rapport à l'amputation, à la réadaptation. Vraiment, pour tous, c'est une belle histoire de résilience, là, comme on le disait. Et vraiment, je pense que tous là, peuvent trouver quelque chose de très beau dans la race humaine en voyant ce film-là.
Oui. Alors, il faut dire qu'il est présenté en version originale anglaise seulement.
Oui, exactement. Là, pour l'instant, j'ai vu qu'il était uniquement en salle en anglais. C'est un niveau d'anglais qui est accessible pour les gens qui sont confortables oui. avec la langue. On n'est pas dans un registre très spécifique. Alors, malgré cette petite barrière dans l'anglais, pour certains, j'invite vraiment les gens à le voir.
Ça se suit très bien. Portez vos mouchoirs parce que c'est émouvant.
Tout à fait.
Daniel H. pourquoi?
Hubert.
Ah, Daniel Hubert, Lantaigne, directeur général de la Fondation Réa, qui nous parlait du film Stronger. Merci beaucoup, puis à la prochaine.
Merci, au plaisir.
Lynn Lavallée-Brigue, la mairie de Mascouche, une troisième personne a porté sa candidature à la mairie de Mascouche pour l'exercice démocratique qui se tiendra le 5 novembre. La mascouchoise de 50 ans, Lynn Lavallée, a décidé de faire le saut en politique, une nouvelle lue dans le journal La Revue. Lynn Lavallée a 8 enfants et elle est confinée à un fauteuil roulant, conséquence de la sclérose en plaques. Elle a obtenu 90 signatures et il ne lui reste qu'une formation à suivre avant d'officialiser sa candidature. Ses idées sont surprenantes. Elle remettrait $1 par jour à chaque élève du primaire et du secondaire. Elle verserait aux mères mascouchoises un salaire hebdomadaire calculé d'après le salaire minimum et accorderait aux personnes âgées entre $600 et $800 par semaine. Pour Mascouche, elle mettrait entre autres fin à la déforestation et ferait construire une usine d'épuration des eaux usées en haut du plateau. Et l'argent, point d'interrogation, on baisse le salaire de tout le monde, les employés municipaux, au même niveau que le mien. Elle dit recevoir des prestations d'aide sociale au montant de $13 000 par année. Et puis, pourquoi s'inquiéter de l'argent, s'interroge-t-elle? Elle se dit idéaliste et croit pouvoir tout changer une fois au poste de mairesse. Elle ne semble pas faire de distinction entre les champs de compétences des différents paliers de gouvernement, ni réaliser l'impact de ses positions, mais elle répond qu'elle ne s'en préoccupe pas. Elle ne veut que changer le monde. Quatre ans après la mise sur pied des premières rencontres de répit stimulation, la société Alzheimer de Granby et Région accentue sa présence dans le secteur ouest de Brome-Missisquoi avec l'ajout de nouveaux services en français et en anglais. L'organisme offre désormais des consultations individuelles et familiales du lundi au jeudi à son tout nouveau bureau situé au 2 de la rue Adémar-Cusson à Bedford. Les citoyens de Farnham, Sainte-Sabine, Pike River, Bedford, Saint-Armand, Frillisburg, Dunham, Stanbridge East, Stanbridge Station ou Station, Notre-Dame de Stanbridge et Saint-Ignace de Stanbridge n'auront plus à se déplacer à Cowansville ou à Granby pour rencontrer un intervenant social, explique la directrice générale Julie Desgranges. La société Alzheimer organisera également des cafés-rencontres pour les aidants, un jeudi sur deux de 13h à 15h à la salle L'Évêque du CLSC. La première rencontre est prévue pour le 19 octobre. Les personnes aux prises avec des troubles cognitifs et leurs proches ont par ailleurs accès à des rencontres de répit stimulation tous les jeudis de 9h30 à 14h30. Pour tous les détails sur tous les services, www.alzheimer.ca/fr/Granby. Et au bout du fil, Marc Therrien, médecin originaire de Sherbrooke, qui vit aujourd'hui à Gatineau et qui est à l'origine des courses partagées. Bonjour, M. Therrien.
Bonjour, Anne-Denis.
Depuis le mois de mai, les courses partagées de Sherbrooke ont lieu à chaque mercredi matin de 9h30 à 11h30 autour du Lac des Nations et ça va se poursuivre jusqu'en octobre. Dites-nous d'abord ce que sont les courses partagées que vous avez mises sur pied et comment est née l'idée de ce projet?
Dans le fond, les courses partagées sont nées du fait que, après des années à courir, j'avais beaucoup de plaisir à courir, mais je me disais, il faut que ce plaisir à courir-là puisse servir à d'autres personnes. Donc, je me disais, la façon la plus simple de le faire, c'est de courir avec quelqu'un qui aimerait vivre la même sensation. Donc, j'ai parlé à une de mes amies qui était doyenne de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Des étudiants de l'université ont conçu le Cartus, qui est essentiellement une chaise roulante, mais un peu allongée, conçue expressément pour la course.
Pourquoi vous l'avez appelé Cartus?
À vrai dire, les étudiants devaient intégrer le mot US pour l'Université de Sherbrooke dans leur dans le nom de leur conception. Ils l'ont appelé Cartus. Et par la suite, on a décidé de garder le nom parce que justement, c'était le nom original, mais aussi les gens faisaient référence au US comme us, donc un cart pour nous. Donc, on trouvait le nom très intéressant.
Oui.
Donc, on a gardé ça. Puis, les courses partagées depuis le mois de mai, essentiellement, c'est qu'on invite les gens à mobilité réduite à venir au parc Jacques Cartier. Et les coureurs arrivent, donc des gens qui ne connaissent pas nécessairement les co-coureurs, qu'on les appelle, les personnes à mobilité réduite. On fait un jumelage, donc, entre les coureurs et les co-coureurs, et ils partent faire le tour du Lac des Nations, qui est une course d'une vingtaine de minutes. Ils font le nombre de tours qu'ils veulent, donc c'est très libre, là, entre 9h30 et 11h30 le mercredi matin.
Et comment vous procédez pour faire le jumelage?
Certains arrivent déjà jumelés, donc un jeune va arriver avec sa grand-mère ou encore un homme, une femme va arriver avec son conjoint, sa conjointe handicapée. D'autres vont arriver de façon libre et à ce moment-là, on a des bénévoles qui sont sur place qui vont tout simplement jumeler librement. Donc, on va dire, le premier coureur qui arrive va prendre le premier co-coureur ou co-coureuse de libre. Ils vont partir ensemble.
Est-ce qu'il arrive que des gens deviennent des coureurs parce qu'ils veulent participer aux courses partagées?
Ça peut arriver, définitivement. C'est sûr que la course est déjà très populaire. Donc, on a beaucoup de gens qui courent déjà et qui, un peu comme je le ressentais, veulent partager cette joie de courir-là. Donc, on a plusieurs personnes qui sont déjà des coureurs, mais que ça en inspire à commencer à courir, oui, ça peut arriver, puis je ne serais pas surpris qu'on en voit de plus en plus.
Oui. Est-ce qu'il y a des courses prévues pour ce mois-ci? Je pense que oui.
Hein? Bon, il y en a une qui vient tout juste de terminer ce matin. Qui a eu lieu hier, je m'excuse. Et la dernière est la semaine prochaine.
Donc, donc il en reste une.
Il en reste une la semaine prochaine, donc c'est de la mi-mai à la mi-octobre, dans le fond, qui est les dates d'ouverture des parcs. Donc, on reste à l'intérieur de cette période-là où la température est plus clémente.
Oui, certainement. Mais avec le climat qu'on connaît, là, peut-être qu'il va faire très, très beau en novembre et en décembre, qui sait. Mais pour l'instant, c'est de quoi? De mai à?
De la mi-mai à la mi-octobre.
De la mi-mai à la mi-octobre, d'accord. Et comment les personnes qui veulent participer vous contactent-elles?
Bien, les gens peuvent se rendre sur le site web coursespartagées.com pour avoir l'information pour les courses partagées de Sherbrooke, mais essentiellement, c'est libre. Donc, les gens arrivent librement, là, n'importe quand, entre 9h30 et 11h30 au parc Jacques-Cartier du Lac des Nations. Mm-hmm. Ils n'ont pas besoin de réserver, ils n'ont pas besoin de nous aviser à l'avance. Mais si les gens veulent nous dire qu'ils vont être présents, ben, ils peuvent nous écrire leur info à coursespartagées.com.
D'accord. Alors, pour l'instant, les courses partagées se passent à Sherbrooke, mais est-ce que vous avez des projets d'expansion, de développement, parce que c'est un projet qui peut intéresser bien des gens dans bien des régions?
Dans le fond, on l'a semé à Sherbrooke, mais l'idée fait son chemin. Déjà, on a plusieurs personnes de d'autres régions, de Gatineau à Rimouski, passant par Montréal et Québec, qui ont vu le concept et qui veulent en partir. Donc, je ne serais pas surpris de voir d'autres courses partagées dans différentes villes au Québec, voire même ailleurs, débuter l'an prochain. Mais pour l'instant, on a commencé cette année à Sherbrooke.
Alors, ça vous ferait plaisir qu'on vous vole l'idée?
Oui, effectivement. L'idée est là pour grandir. Donc, Il n'y a pas de restriction, pas de limite. Tout ce qui veut dire j'achète un Cartus ou on trouve un Cartus puis on en part chez nous, tant mieux.
Oui, parce que ça prend absolument un Cartus. Et ça coûte combien, un Cartus?
Actuellement, ils sont autour de 5 000 $.
D'accord.
Donc, c'est sûr qu'avec le temps, probablement que les coûts vont baisser, mais actuellement, c'est 5 000 $.
Il y en a combien de disponibles?
On en a 5 pour les courses partagées de Sherbrooke. L'intention est de monter à une dizaine l'an prochain. Mm-hmm. Tant mieux s'il y en a beaucoup d'autres ailleurs.
Et les personnes en fauteuil roulant, comment elles vivent les courses partagées?
C'est génial.
Oui.
C'est pas tant pour les co-coureurs que les coureurs aussi. C'est une expérience extraordinaire pour les deux côtés du quartus. Nécessairement, les co-coureurs ressentent des sensations qu'ils n'ont pas ressenties depuis longtemps, la sensation de la vitesse, la sensation du vent dans le visage, d'être en nature, aussi la complicité avec le coureur. Donc, pour eux, c'est merveilleux. Mm. Mais en tant que coureur, je l'ai entendu aussi de d'autres coureurs, d'apprendre et de vivre ce que le co-coureur a vécu. Dans le fond, il nous raconte des histoires incroyables sur leur handicap, sur ce qu'ils ont traversé, sur ce que la vie leur a appris. L'expérience de vie de ces gens-là est fascinante et je vous dirais que souvent, j'en sors beaucoup plus grandi que ce que je pense que le co-coureur en aurait sorti de même. Donc, c'est très bon là, pour les deux. Là.
Oui, une belle expérience, autant humaine que sportive. Marc Thérien, ben bravo pour cette belle idée. Puis on espère que ça fera des petits. Marc Thérien, médecin originaire de Sherbrooke et qui vit aujourd'hui à Gatineau. Alors, j'imagine que les courses partagées, ça va se passer aussi à Gatineau bientôt, puisque vous y êtes.
Ça s'en vient.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
Sur le site de newswire.ca, le Canada prend des mesures concrètes pour améliorer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises privées. Il faut davantage de conseils d'administration et d'entreprises qui reflètent la diversité du Canada. Un effectif plus inclusif est essentiel pour que le Canada puisse surmonter les défis et profiter des occasions d'une économie moderne et mondiale. La diversité est l'une de nos forces et nous nous sommes engagés à faire en sorte que les entreprises canadiennes y aient recours. C'est le message livré par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains. Il a décrit les mesures proposées dans le projet de loi C-25, loi modifiant la loi canadienne sur les sociétés par action, la loi canadienne sur les coopératives, la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la loi sur la concurrence pour inviter les sociétés par action du Canada à recruter davantage de femmes et de membres des groupes sous-représentés au sein de leur conseil d'administration et de leur haute direction. Le ministre Bains a profité de l'occasion pour parler à de jeunes professionnels et à des dirigeants de l'importance des stratégies visant à favoriser la diversité et l'inclusion au sein de la haute direction d'entreprise. Il a décrit divers aspects du projet de loi C-25 et des façons dont celui-ci habilitera les groupes sous-représentés comme les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Le ministre Bains a également parlé de sa participation à la dernière rencontre des ministres du G7 à Turin, en Italie, où il a fait la promotion de la diversité et de l'inclusion, valeurs qui sont chères au Canada. Sur le site closermag.fr, fière de mesurer un mètre, cette blogueuse défend la mode pour tous. Le leitmotiv de Doris, blogueuse mode atteinte de nanisme, montrer aux femmes qu'on peut être belle et fashion, quelle que soit sa taille. Une chose est sûre, du haut de son 1,12 mètre, Doris est armée d'un humour XXL, extra large. Pour preuve, le nom que cette Américaine a choisi pour son blog, I Wear Shirt As Dresses, traduction libre, je porte des chemises en robe. Passionnée de mode, la jeune femme partage avec les internautes du monde entier ses conseils avisés pour être fashionista, quelle que soit sa taille, et révèle où trouver les pièces tendance, même quand on est nain. C'est difficile de faire comprendre aux gens que la mode n'est pas une question de taille, explique Doris à Barcroft TV. Il pense qu'elle est réservée aux grandes, aux minces et aux belles. Moi, je suis persuadée qu'avec un petit effort, ça peut fonctionner. La mode est pour tout le monde. Un message positif qui lui vaut un joli succès sur la toile. J'ai commencé mon blog en 2009, j'entrais à la fac et j'avais acheté une tunique. Je la trouvais vraiment mignonne. Plutôt que de me dire qu'elle n'était pas pour moi, j'ai pris conscience que je pouvais carrément la porter en robe. Assistance juridique de profession, Assistante juridique de profession, la blogueuse consacre chaque moment de temps libre à ses croquis de mode et à dénicher les meilleures adresses et les plus jolis looks du moment. Une mine de conseils qu'elle partage sur Instagram. Mon but, c'est juste de m'exprimer car j'ai toujours été créative. L'autre objectif de mon blog, c'est d'en faire une ressource pour les autres personnes de petite taille. En ce mois d'octobre, mois du nanisme, elle participera aussi à un défilé de mode international dédié aux personnes de petite taille. Allons-y avec des rafales. Vous êtes à la recherche d'un emploi et souhaitez mieux connaître le marché du travail actuel, rencontrer des employeurs potentiels et parfaire votre réseau de contacts. En octobre, Vie Autonome Montréal sera au Salon Carrière et Développement jeudi 5 octobre, c'est aujourd'hui, de 10h30 à 16h au Palais des Congrès. À la Foire nationale de l'emploi, jeudi 12 octobre, de 10h à 16h à la Place Bonaventure. Au Salon de l'éducation, vendredi 13 octobre de 14h à 17h à la Place Bonaventure, pour information et ou inscription, Kim Joly, 514-288-1177, 514-288-1177 ou coord, comme cohorte, @va-m.org. Pour la première fois depuis 10 ans, il y aura une journée Terry Fox pour la recherche sur le cancer à Rimouski, le samedi 7 octobre à compter de 10h30 au Parc Beau Séjour. Les membres de la communauté sont invités à participer à cet événement familial non compétitif en marchant ou en courant pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Les participants peuvent recueillir de l'argent en ligne à partir du site journeeterryfox.org en réunissant des promesses de dons auprès de leur famille et de leurs amis, ou en remettant un don sur place pendant la journée Terry Fox. Les efforts déployés par les participants à la journée Terry Fox ont donné des résultats. Depuis 1999, au Québec, la Fondation Terry Fox a financé des projets de recherche sur le cancer à hauteur de 50 millions, déclare Marie-Claude Gagnon, organisatrice bénévole de la journée Terry Fox de Rimouski. Tout le monde peut faire sa part, que ce soit pour un don de 1 ou 100 $, vous contribuez à la recherche sur le cancer. On peut proposer son aide comme bénévole par courriel qc@terryfox.org ou téléphone 1-888-836-9786. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été à l'écoute des Paractualités. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson, à la mise en onde Mathieu Tessier. Merci à mes invités Daniel H. Lantaigne et aussi M. Marc Terrien. C'est François Brodeur qui vous accompagnera demain. Ici Hélène Denis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bon congé de l'Action de grâce.